18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble deux heures d'information, d'analyse, de débat avec nos invités. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est votre journal Sébastien Krebs. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, le coup de sang d'Emmanuel Macron contre la police israélienne. Nous serons sur place, notamment dans les rues de Jérusalem où la scène s'est déroulée cet après-midi, 18h20. Les dirigeants du monde entier sur place pour le 5e forum de la Shoah, sommet qui marque le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Je recevrai l'historien et professeur Yannis Roder qui publie aujourd'hui même un livre sur le sujet. 19h30, Georges-Marc Benamou nous rejoint. Il signe ce soir un documentaire très fort sur les vies d'Albert Camus. Ce sera diffusé sur France 3. C'est votre grand journal du soir, très complet et varié pour y compter ensemble. Monde changé jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Nobody has to provoke. Nobody, okay?
Le coup de gueule d'Emmanuel Macron en anglais contre les policiers israéliens à Jérusalem-Est. La scène en rappelle une autre. Mimétisme flagrant avec Jacques Chirac.
Quel message faut-il y voir? La question est posée ce soir.
La montée des eaux qui inquiète le sud-ouest. Alerte rouge aux crues dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. 1500 habitants évacués.
On est venu nous sonner à la porte. On nous a dit qu'il fallait évacuer. On est en plein pied. Mais les affaires étaient prêtes. C'est pas la première fois. Donc on est organisé. Hein.
Deux agents d'Enedis arrêtés en Dordogne, ils sont soupçonnés d'avoir participé aux coupures de courant menées par la CGT.
Dans ce journal également, Donald Trump qui menace l'Europe cette fois d'une nouvelle guerre commerciale.
Et puis le stress des lycéens à l'heure des choix dans Parcoursup.
Je suis l'aîné de la famille, donc c'est un peu un truc inconnu à la maison. Du coup, ouais, c'est un peu stressant avec les parents qui sont stressés aussi.
Et puis nous passerons le coup de fil du 18h à Mademoiselle Agnès à quelques heures des adieux de Jean-Paul Gaultier. Dernier défilé haute couture ce soir. La Bourse de Paris en recul de 0,58% à 6010 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir
la tendance météo pour demain.
Alors c'est toujours très compliqué dans le sud avec le passage de la tempête Gloria. Deux départements sont actuellement placés en vigilance rouge, crue, inondation. Je vous donne tout le détail de ce qui va se passer dans les prochaines heures dans le sud et dans toute la France à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
C'est donc l'image du jour. Emmanuel Macron, très énervé en anglais contre les policiers israéliens. La scène s'est jouée cet après-midi lors de sa visite à Jérusalem-Est et elle nous rappelle forcément des souvenirs.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method.
Alors ça, c'était Jacques Chirac en 1996. Adrien Beck, bonsoir. Vous avez assisté cet après-midi donc à une sorte de remake dont on se demande s'il n'était pas volontaire.
Oui, Emmanuel Macron connaît très bien cette séquence, il l'évoque d'ailleurs parfois avec le sourire. Eh bien cet après-midi, c'est exactement le même scénario qui s'est reproduit. Emmanuel Macron arrive de la vieille ville arabe de Jérusalem où il vient de déambuler pendant près de 3 heures, encadré par son service d'ordre et une vingtaine de policiers israéliens. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Le président donc arrive devant l'église Sainte-Anne, propriété de la France. Et là, sous le porche, éclate une altercation entre policiers israéliens et français. Emmanuel Macron, qui est au milieu de cette altercation, hausse le ton.
We know perfectly. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody, nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep.
Alors quelles sont les règles dont parle Emmanuel Macron? Eh bien comme Sainte-Anne appartient à la France, c'est la France et elle seule qui en assure la sécurité. Les policiers israéliens n'étaient donc pas les bienvenus. Il était arrivé d'ailleurs la même chose à Jacques Chirac qui avait alors refusé d'entrer dans le bâtiment. Ce soir, l'Élysée calme le jeu, rien de grave, nous assure l'entourage du chef de l'État. Tout est rentré dans l'ordre.
Adrien Beck en ligne de Jérusalem pour Europe 1.
Alors quel message politique derrière cette séquence? Que cherche Emmanuel Macron en surjouant ce coup de gueule? D'ailleurs, il parle très bien anglais et on ne l'entendait pas nécessairement dans la séquence qu'on a diffusée. On se posera la question avec les grandes voix à 19h30, leur analyse. Et juste avant, mon invité à 18h20, le professeur d'histoire Yannis Roder, on parlera avec lui de la Shoah et du souvenir, évidemment, le devoir de mémoire.
Oui, puisque le président français participera demain en Israël aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et le président qui a vivement défendu ce matin son combat contre l'antisémitisme. La négation de l'existence d'Israël comme État, dit-il, en est une forme contemporaine.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h04. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et cette fois, Sébastien, c'est une alerte rouge dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La tempête Gloria, comme attendu, apporte beaucoup de pluie.
Oui, hein. Dans le secteur de Perpignan, la cote d'alerte a été atteinte. Le cours d'eau Agly déborde. Benjamin Peter, vous êtes sur place. 6 communes ont dû en partie être évacuées.
Oui, ce sont toutes les personnes qui habitent à l'intérieur d'une zone de 300 mètres autour de l'Agly. 6 communes sont concernées, ça représente 1500 habitants tout de même qui sont accueillis chez des proches ou comme ici à Cléra dans le gymnase de la commune. Ils sont quelques dizaines, comme Eliette, venue trouver refuge le plus vite possible.
On est venu nous sonner à la porte, on nous a dit qu'il fallait évacuer, on est en plein pied. Mais les affaires étaient prêtes et généralement quand il fait mauvais comme ça, je prépare à l'avance. Les médicaments surtout, les appareils téléphoniques, nos iPads, les disques durs et puis voilà, quelques affaires chaudes. Le plus important. C'est pas la première fois, donc on est organisé. Hein.
Alors certains refusent de partir de chez eux, les gendarmes patrouillent donc pour essayer de les convaincre. Pour Kevin Mazoyer, le secrétaire général de la préfecture, il est essentiel que les habitants respectent cette consigne d'évacuation.
Les gens doivent venir ici et sans exception. La personne qui ne veut pas bouger, c'est pas un scénario possible ça. Elle doit rejoindre les espaces prévus à cet effet. On a des questions aussi de gens qui disent « j'habite à un étage, donc je ne suis pas concerné ». C'est totalement inexact. Tout le monde doit quitter la bande des 300 mètres pour se mettre en sécurité.
Voilà, alors pour le moment, il n'y a pas de dégâts, hein, mais l'Agly continue de monter. Elle est haute désormais de 7 mètres, toujours au-delà de la côte d'alerte. Et si la décrue ne s'amorce pas dans la soirée, tout est prêt ici pour que les personnes présentes puissent passer la nuit dans le gymnase.
Benjamin Peter en ligne de Cléra dans les Pyrénées-Orientales et dans le département voisin. C'est la haute vallée de l'Aude jusqu'à Carcassonne hein, qui est elle aussi en alerte rouge ce soir.
Alors cette tempête Gloria qui a fait une nouvelle victime en Espagne, le corps d'un homme retrouvé dans une zone inondée près d'Alicante, 4 morts et 4 personnes portées disparues désormais et depuis dimanche.
On en vient aux suites des coupures de courant menées par la CGT Énergie pour protester contre la réforme des retraites. Deux agents d'Enedis ont été interpellés et placés en garde à vue aujourd'hui.
Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Leur audition a duré plusieurs heures.
Oui, interpellés ce matin, libérés en début d'après-midi. Ils ont passé quelques heures en garde à vue, interrogés sur la coupure de courant qui a visé un site classé Céveso le 10 janvier. L'entreprise Neuvik Interspray, privée d'électricité pendant 3 heures. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte, mais à ce stade, les deux employés d'Enedis ne sont pas poursuivis. Pendant qu'ils étaient en garde à vue, quelques dizaines de syndicalistes se sont rassemblés en soutien devant la gendarmerie de Neuvik, commune de 3600 habitants, où le courant a été coupé pendant une heure environ, ce qui n'a pas interrompu les gardes à vue, puisqu'à la brigade de gendarmerie, le groupe électrogène a pris le relais.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1, des arrestations qui ont provoqué en tout cas la vive réaction du leader de la CGT, Philippe Martinez.
La conception de la négociation et de la discussion avec un mouvement de grève, c'est les gardes à vue. Je crois que ça, c'est jeter de l'huile sur le feu.
Il y a besoin d'apaiser une situation. Est-ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître que oui, il y a un problème dans ce pays ? Eh bien, plutôt que de dire ça, on continue à stigmatiser. Ces actions, elles sont ciblées, même s'il arrive parfois qu'il y ait des citoyens qui soient touchés, et ce n'est pas eux qu'on vise.
Après autant de jours de grève, autant de mobilisation, eh bien, le mépris, ça devient insupportable.
Et on se souvient qu'hier, le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée a demandé ce que ces types d'actions soient sanctionnées. Philippe Martinez, là, qui est venu en tout cas soutenir les grévistes de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord, il répondait à Lionel Gougelot.
La mobilisation contre la réforme des retraites qui continue avant la présentation de la loi vendredi en Conseil des ministres. Nouveau blocage dans les ports aujourd'hui. Des fonctionnaires et des enseignants sont aussi allés déposer leurs outils de travail, crayon et manuel, devant le ministère des Finances.
Et dans un autre registre, les ministres de l'économie et des comptes publics, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ont reçu de nouvelles menaces de mort.
Des courriers où étaient scotchées des balles de revolver, leurs auteurs réclamant l'abandon de la réforme. Une enquête judiciaire a été ouverte.
L'Organisation mondiale de la santé en conclave. Ce soir, c'est bien entendu l'autre titre de cette édition. Le bilan du coronavirus apparu en Chine a largement augmenté. Il s'élève désormais à 17 morts, contre 9 un peu plus tôt.
Et plus de 400 personnes contaminées dans la région de Wuhan. L'OMS doit décider ce soir si cette épidémie relève d'une urgence de santé mondiale. Comme en leur temps, le virus Ebola ou encore la grippe H1N1 l'avait déclenché. On attend encore à la décision, on y reviendra dans le journal de 19h.
Et Donald Trump qui continue, lui, de secouer le forum de Davos en Suisse. Et cette fois, c'est l'Europe qu'il menace de guerre commerciale.
Le président américain dit envisager de taxer notamment les voitures européennes exportées aux États-Unis, et cela à hauteur de 25%, si aucun accord commercial n'est trouvé avec l'Union européenne.
Les États-Unis ont perdu 150 milliards et bien plus depuis des années avec l'Union européenne. Ils mettent des barrières douanières là où vous pouvez faire des affaires et des taxes partout. Ils rendent les affaires impossibles. Et franchement, c'est plus difficile de faire des affaires avec eux qu'avec les Chinois. Et pour être honnête, je voulais attendre d'en finir avec la Chine avant de me mettre au travail avec l'Europe.
Donald Trump à Davos en Suisse, et après ce discours, la présidente de la Commission européenne s'est montrée plutôt optimiste, Ursula von der Leyen, qui voit un accord se dessiner dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, la France annonce qu'un cadre global a été trouvé avec Washington pour éviter une escalade, cette fois sur la question de la taxe qui vise les GAFA.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
L'heure du choix pour les futurs bacheliers, en tout cas l'heure de choisir son avenir via Parcoursup. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis les adieux ce soir de Jean-Paul Gaultier à la haute couture.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Pour les élèves de terminale, l'heure est venue de se choisir un avenir. Lancement aujourd'hui de la plateforme Parcoursup.
Et ce n'est pas toujours facile de se décider de remplir cette liste de 10 vœux, 10 souhaits de formation post-bac. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 12 mars pour le faire. Et Victor Delande, vous l'avez ressenti devant un lycée, c'est parfois, c'est forcément un stress.
Oui, il suffit de se rendre devant n'importe quel lycée aujourd'hui pour mesurer ce stress. Chloé est élève en terminale à Paris. Elle vise des écoles de commerce et le simple fait de remplir ses vœux sur la plateforme Parcoursup l'angoisse déjà depuis plusieurs semaines.
On en parle pas mal, surtout que je suis l'aînée de la famille, donc c'est un peu un truc inconnu à la maison. Du coup, c'est un peu stressant avec les parents qui sont stressés aussi.
Eva, elle, choisira des prépas littéraires et des licences de lettres. Elle n'a pas encore renseigné ses vœux, mais elle redoute surtout les réponses qui tomberont à partir du 19 mai. Elle résume l'angoisse de très nombreux lycéens.
Ce serait de ne pas avoir ce que je veux vraiment et de devoir faire un truc qui m'intéresse moins.
Roman, lui, n'est pas particulièrement stressé. Avec un très bon carnet scolaire depuis le début de la seconde, il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Mais autour de lui, il sent bien monter cette appréhension autour de Parcoursup.
Ça stresse les autres, mais ce n'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Justement, je pense que ça stresse aussi, c'est pour ça. Ils disent « Oh, Parcoursup, je verrai », mais ils n'en parlent pas trop.
Pour ceux qui préfèrent encore procrastiner, rappelons simplement une date. Vous avez jusqu'au 12 mars prochain pour remplir vos 10 vœux sur parcoursup.fr.
Un reportage signé Victor Delande et une nouveauté cette année, Parcours Plus, plateforme dédiée à ceux qui, bien plus tard, veulent reprendre des études ou changer de métier.
Et on va en parler dans le détail ce soir avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui sera l'invitée politique d'Aurélie Herbemont à 19h10.
L'ancien ministre Pierre Joxe a obtenu gain de cause en justice. L'écrivaine Ariane Fornia, par ailleurs fille d'Éric Besson, qui l'accuse d'agression sexuelle lors d'une soirée à l'Opéra en 2010, a été condamnée pour diffamation. Aujourd'hui, elle va faire appel.
C'est une page de l'histoire de la mode qui se tourne ce soir. Dernier défilé pour le créateur Jean-Paul Gaultier qui quitte le monde de la haute couture, Sébastien, après 50 ans de carrière.
Et c'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir mademoiselle Agnès.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes productrice, grande spécialiste évidemment de la mode. Vous y serez ce soir au Théâtre du Châtelet, ça va être une ambiance particulière.
Ah, de l'émotion, c'est sûr, on en a toujours, hein, de toute façon, au défilé Gaultier, mais pour des gens de ma génération, c'est beaucoup de pages qui se tournent ces derniers temps.
Jean-Paul Gaultier, on pourrait le qualifier de burlesque, de transgenre, parfois de punk aussi. Il a apporté beaucoup d'originalité, il a aussi habillé Madonna, on s'en souvient. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de sa carrière ?
Oh, écoutez, surtout une résonance particulière aujourd'hui avec des mouvements qui se traduisent plus par des combats comme le body positivisme, comme la diversité, qui ont toujours fait partie de Jean-Paul, qui n'en faisait pas lui un combat, mais avec une évidence totale, donc quelqu'un d'extrêmement visionnaire.
Il a fait passer le message qu'il avait 1000 projets, en tout cas d'autres projets. Vous savez, vous, de quoi il retourne ?
Non, écoutez, je ne m'inquiète pas du tout pour Jean-Paul. En effet, il y a son dernier spectacle à cartonner. Il s'est peut-être aussi un petit peu piqué de mise en scène. Il a toujours aimé faire des costumes également d'opéra, de théâtre. Enfin, sa carrière de couturier, à mon avis, est loin d'être terminée. Maintenant, l'exercice du défilé est relativement répétitif. L'industrie de plus en plus féroce actuellement. Donc, je crois que, bon, à un moment donné, il s'est dit ça va, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, mademoiselle Agnès, d'avoir été en ligne avec nous avant de rejoindre donc le Théâtre du Châtelet pour ce dernier défilé de Jean-Paul Gaultier ce soir. Merci beaucoup.
Les sports à l'Open d'Australie avec les qualifications aujourd'hui pour le troisième tour de Serena Williams, Novak Djokovic ou Roger Federer. Pardon. Pour les Français, en revanche, bon, bah, c'est un peu cata les Français. C'est fini pour Benoît Paire, c'est fini pour Caroline Garcia, c'est fini pour Fiona Ferro. Il reste encore Gaël Monfils, Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert et Alizé Cornet. Et puis le foot ce soir, c'est Reims-PSG, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera sans Cavani qui est absent.
Et Sébastien, vous serez présent à 18h30 pour un nouveau journal complet. Anissa, du côté du ciel, vigilance renforcée dans le sud.
Oui, effectivement, puisque la vigilance est passée de orange à rouge sur deux départements, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Alors actuellement, l'activité orageuse s'est estompée sur ces deux départements. Au cours des trois dernières heures, il faut savoir qu'il est tombé quand même 50 mm d'eau en trois heures. Nous avons ces derniers jours trois mois de pluie tombée dans le sud-ouest de la France. Écoutez bien, 120 mm à Perpignan, 315 mm à Arles-sur-Tech et ça va continuer encore dans les prochaines heures, les prochaines nuits. Alors sans orage, mais toujours beaucoup de pluie. Demain, sur les Pyrénées-Orientales, toujours des pluies soutenues. Au fil des heures, ces pluies, elles vont se décaler vers les Cévennes. Et attention, hein, si vous nous écoutez ce soir sur l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron, eh bien demain, c'est vous qui allez récolter ces précipitations. En bord de Méditerranée, sur le Cap-Corse, c'est toujours le vent d'Est qui souffle toujours très fort. Attention aux vagues, évitez de vous balader en bord de mer demain. Sur les Pyrénées, il neige à partir de 1800 mètres. Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi. Et puis partout ailleurs, sur le reste de la France, un peu plus au nord, c'est encore une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Les températures, elles sont fraîches. Au nord-est, moins 5 à 2 degrés, moins 5 à Épinal, moins 3 à Strasbourg, 1 pour Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 5 à 17 degrés de Beauvais à Marseille, 8 à Paris.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, votre invitée Nathalie Lévy.
Et oui, Emmanuel Macron est à Jérusalem pour le 75e anniversaire des camps d'Auschwitz. On a suivi, on a entendu cette altercation entre policiers français et israéliens et le ton du président qui est monté d'un cran. On va y revenir, mais surtout, un Français sur six affirme n'avoir jamais entendu parler aujourd'hui de la Shoah. Comment continuer à faire vivre le devoir de mémoire ? Dans un instant, je reçois un prof. Pas n'importe lequel, le professeur d'histoire Yannis Roder qui publie aujourd'hui son dernier ouvrage sur le sujet.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, le président de la République en ce moment en Israël pour le 5e forum mondial de la Shoah. La Shoah, un Français sur six affirme n'en avoir jamais entendu parler. Alors comment continuer à faire vivre le devoir de mémoire ? Vous recevez ce soir Nathalie Yannis Roder. Il est professeur d'histoire-géographie et auteur de « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse » publié aujourd'hui aux éditions Odile Jacob.
Bonsoir Yannis Roder.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, on va bien entendu aller longuement sur le devoir de mémoire, mais d'abord cette scène, aujourd'hui même, à Jérusalem, Emmanuel Macron qui dit plutôt à la police israélienne « keep calm ». Ça rappelle évidemment vivement une séquence, Jacques Chirac, il y a quelques années de ça, on est à l'entrée de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem-Est, un site qui appartient à la France, il le rappelle et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette scène ? Même accent, quasiment, même façon de faire, même bousculade.
Alors, je ne sais pas s'il me revient à moi de commenter ce qu'a fait le président de la République en Israël. Ce n'est pas mon sujet, mais puisque vous me posez la question, il faut comprendre aussi, je crois, que Emmanuel Macron va en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques. Et quand il fait un petit peu de... Peut-être en même temps, c'est-à-dire, voilà, il renvoie un peu... Le prisme de l'autre côté en disant voilà, je suis en Israël mais regardez quand même, je peux moi aussi critiquer, comme l'avait fait Jacques Chirac, critiquer les Israéliens, critiquer leur police, critiquer leur armée. Voilà, je crois que c'est simplement voilà, un positionnement politique qui tend justement à équilibrer les choses.
Voilà, Emmanuel Macron et son en même temps là encore à l'international. Bien entendu ce devoir de mémoire, on se souvient Yannis Roder, Simone Veil, qui fut présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 en 2007, elle s'interrogeait beaucoup sur cette question de la transmission. En 2002, elle prononçait un discours au Conseil de l'Europe de Strasbourg. L'ère des témoins s'achève. Quel en sera l'effet sur la transmission de la Shoah ? Qu'êtes-vous, vous, aujourd'hui, en mesure de répondre à cette question ?
Eh bien, je crois que la transmission, elle existe, elle est là. Elle se fait et ne se fait pas uniquement par les témoignages, bien heureusement. Vous savez, le témoignage, c'est un document historique qui doit être utilisée, analysée en utilisant les méthodes historiques, historiennes, et donc qui ne peut pas faire, qui ne peut pas remplacer un cours d'histoire. Il peut accompagner un cours d'histoire, il peut être utilisé ou pas dans un cours d'histoire, mais l'histoire, ce n'est pas le témoignage. Le témoignage apporte un éclairage, un élément qui doit surtout être mis en perspective, expliqué, contextualisé.
Mais l'inquiétude, elle est là quand même. Les rescapés de la Shoah, ils le disent aujourd'hui. Demain, nous ne serons plus là. Demain, qui pourra porter notre parole? Qui pourra porter notre souffrance? Et la question, elle se pose d'autant plus qu'un Français sur six n'a jamais entendu parler de la Shoah et une proportion qui s'élève à 69% chez les moins de 38 ans. C'est terriblement inquiétant, non?
Alors, oui, le sondage est inquiétant, mais je pense qu'il doit être lui aussi mis en perspective. Vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, vous avez parlé de souffrance. Qui parlera de notre souffrance? Quand on parle de la Shoah, bien sûr, on parle de la souffrance. Mais s'agit-il de parler uniquement de la souffrance? Je crois qu'il faut aborder la question comme une question historique et politique. Notre intérêt aujourd'hui, c'est que, nous le savons tous, c'est que ce type d'événement ne se reproduise pas, ne se reproduise plus. Et donc, il faut faire une éducation politique, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les processus politiques. Comment un tel événement a-t-il été possible? Comment a-t-il pu être pensé dans une nation moderne, une nation ultra-industrialisée qu'était l'Allemagne des années 30? Ce sont ces questions qui viennent à l'esprit. Ce sont aussi d'autres questions, si vous permettez. C'est aussi, qu'est-ce qui fait qu'on devient un assassin de masse? Ce sont les questions que je pense aujourd'hui nous devons nous poser.
Alors, la question du processus politique, par exemple, puisque vous le citez, est-il aujourd'hui à la hauteur? À la hauteur de l'antisémitisme? On a encore eu des chiffres lundi, ça faisait la une du Parisien. La crainte, l'insécurité qui touche particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans. Voilà, la réponse, elle est comment politiquement aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à la hauteur du danger?
Il faut une réponse politique. Je pense que le discours politique est relativement clair sur la question, mais ça ne suffit pas. Les injonctions ne suffisent pas. J'explique dans mon livre que, justement, il faut revoir la manière d'enseigner cette histoire. Il faut repenser cet enseignement. Il faut de nouvelles approches.
Des années, pardonnez-moi Yannis Röder, qu'on entend ça. Et vous-même, vous avez été confronté à des situations, j'allais dire, extrêmes, avec des élèves en Seine-Saint-Denis qui nient la Shoah devant vous, qui s'en étonnent, qui disent même que vous dramatisez. Qu'est-ce que vous répondez à cela et quels outils vous avez à ce moment-là?
Moi, je n'ai jamais eu un élève qui a nié l'histoire de la Shoah. J'ai eu des élèves qui s'en sont félicités.
Voilà,
tout à fait. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que la parole ne suffit pas et justement, il serait important et temps peut-être que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut du temps pour faire comprendre à des jeunes élèves l'importance de ces processus politiques et tout l'intérêt qu'il y a à travailler non seulement sur la Shoah, mais sur les génocides et sur les crimes de masse en général.
Il faut ça veut dire, pardonnez-moi,
des heures d'enseignement.
Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas, c'est ce que vous nous dites.
Mais bien sûr, le compte n'y est pas, les programmes relèvent souvent d'un véritable zapping parce que nous n'avons pas le temps de traiter tous les sujets.
Mais vous êtes au cœur du dispositif, vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah, directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès, vous enseignez donc en Seine-Saint-Denis.
Je ne suis pas au Conseil supérieur des programmes.
Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ces messages émanant de vous, de quelqu'un comme vous, ils devraient passer, ils devraient déjà être passés.
Oui, ça fait des années, vous avez raison, que je répète la même chose. La question est de savoir à partir de quand on va prendre conscience qu'il ne suffit pas de faire des injonctions et qu'il ne suffit pas de dire oui, on enseigne la Shoah, oui, on enseigne le nazisme et les processus politiques pour que ce soit réellement effectif dans les classes, plus de 2 heures, si vous voulez. Il faut y passer des heures parce que c'est complexe, difficile et il faut permettre aux élèves qui sont intelligents de réfléchir.
Les pouvoirs publics, l'éducation doit s'impliquer encore plus, doit se mobiliser encore plus pour que ce soit enseigné.
Le sondage dont vous avez parlé, il est extrêmement intéressant. Nous en avions fait un à la Fondation Jean Jaurès l'an dernier qui montrait que 21% des 18-24 ans disaient ne jamais avoir entendu parler du mot Shoah. Moi, je crois qu'il faut les écouter. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les profs ne font pas leur boulot. Ça veut dire simplement que le travail tel qu'il est fait, il n'est pas efficace. Et donc, il faut revoir la manière de travailler.
Il faut revoir la manière de travailler. Donc, vous nous le dites très clairement ce soir. Demain, il n'y aura plus de victimes de la Shoah. Demain, dans l'éducation nationale, peut-être qu'il y aura une heure de cours en plus. Mais la crainte, elle est là. Comment on fait aujourd'hui quand les actes antisémites se propagent, se diffusent, sont réels au quotidien et qu'un certain nombre de Français quittent le pays pour échapper à tout ça?
Eh bien, D'abord, on se met autour d'une table et on réfléchit. Puis ensuite, je crois qu'il faut vraiment, dans l'enseignement, puisqu'on parle de l'enseignement, se focaliser justement sur ces histoires. Mais l'histoire de l'antisémitisme dans les programmes scolaires, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les élèves qui tiennent des propos ou qui ont des préjugés antisémites ne savent pas se situer par rapport à cette histoire. Or, l'antisémitisme, c'est une vieille histoire. Ces élèves n'ont rien inventé. Ils reprennent des vieux poncifs, ne sachant pas qu'ils reprennent ces vieux poncifs.
Juste alors, faire vous, cette précisément parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous êtes prof enseignant, qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là à vos élèves quand ils le dédramatisent, quand ils détournent, quand...
Vous savez, quand on est enseignant, la première chose à faire, c'est de faire expliciter ce qu'a dit l'élève. C'est-à-dire, par exemple, si un élève me dit « les juifs sont racistes », c'est très simple. Je ne vais pas lui dire « je ne sais pas bien ce que tu dis parce que ça ne sert à rien ». Je ne vais pas le tenser parce que de toute façon, dans ces cas-là, vous allez le perdre et vous allez perdre le reste de la classe. Ce qu'il faut dire, c'est qui les juifs ? Qui sont les juifs ? Tu les connais tous ? Et l'élève, forcément ne les connaît pas tous. Et là, vous pouvez commencer à amorcer une discussion.
Yannis Reder, une dernière question en quelques secondes, même si elle est compliquée, ma question, pour y répondre si rapidement. Vous êtes optimiste sur l'avenir par rapport à la question de l'antisémitisme ?
Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. On pensait, je crois, à tort, visiblement, que l'antisémitisme était mort avec la Shoah. On voit bien que la Shoah a été un épisode paroxystique de l'antisémitisme. Que l'antisémitisme est toujours là. Nous savons maintenant que nous devrons toujours vivre avec lui. Moi, je crois en la République, je crois en la démocratie, je crois en la loi de la République et je crois que c'est là-dessus qu'il faut éduquer et édifier nos élèves, quels qu'ils soient. Il faut leur apprendre ce qu'est la République et la démocratie et l'importance de défendre ce système politique.
Et donc, on comprend qu'il y a encore énormément de travail à
fournir.
Merci beaucoup, Yannis Reder, d'être venu ce soir sur Europe 1, à mon micro, sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse à se procurer. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, Sébastien Krebs dans un instant, et puis le débat des grandes voix, Emmanuel Macron dans cette séquence-là, en plein cœur de Jérusalem. On a vu un petit peu du Jacques Chirac, non ? On en parle avec eux.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, votre rappel des titres.
Emmanuel Macron dans les pas de Jacques Chirac. Mimétisme flagrant et assumé à Jérusalem-Est. Le président français a passé un savon en anglais et devant caméras et micros aux policiers israéliens qui gardaient l'église Sainte-Anne, qui est un territoire français. Alerte rouge aux crues dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales sous les fortes pluies de la tempête Gloria. Le cours d'eau Agly a dépassé la cote d'alerte. 1500 habitants ont été évacués. Deux agents d'Enedis interpellés en Dordogne. Ils sont restés plusieurs heures en garde à vue avant d'être libérés. Ils sont soupçonnés d'avoir coupé l'électricité à une usine Seveso pour protester contre la réforme des retraites. En Chine, le bilan du coronavirus monte à 17 morts et plus de 400 malades. L'OMS est réunie ce soir pour décider si l'épidémie relève d'une urgence sanitaire mondiale. Un premier cas a été détecté aux États-Unis. Le prince saoudien Ben Salman a-t-il piraté le téléphone portable du patron d'Amazon, Jeff Bezos ? Des experts de l'ONU réclament une enquête. Ils soupçonnent un lien avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Jeff Bezos étant propriétaire de son journal, le Washington Post. On vous raconte dans le journal de 19h. Et puis on ira aussi à Reims. Reims qui défie le PSG ce soir pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. C'est du foot. Coup d'envoi 21h.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h. Gloria, toujours active dans le sud, Anissa.
Oui, effectivement, cette tempête qui fait des dégâts et qui crée un épisode méditerranéen assez fort avec deux départements qui viennent de passer en vigilance rouge et non plus orange. C'est l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors actuellement, l'activité orageuse s'est estompée. Il pleut un petit peu moins fort sur ces deux départements, mais attention, on s'intéresse surtout à ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et ce que je peux vous dire, c'est que les pluies, eh bien, elles vont perdurer jusqu'à jeudi midi, avec sur le nord de l'Aude, demain soir, des pluies qui baissent temporairement. Mais la partie sud de l'Aude, demain, sera concernée par des pluies assez intenses. Et dans les Pyrénées-Orientales, c'est un petit peu le même schéma. Alors attention, dans la deuxième partie de nuit, donc tôt demain matin, un nouveau passage pluvieux, parfois orageux, va remonter d'Espagne et va encore créer des inondations dans ces deux départements. Soyez extrêmement prudents. Sur le reste du pays, demain, au nord, juste au nord de Lyon, eh bien là, c'est du grand et beau soleil pour toute la France, toute cette partie-là de la France, avec quelques voiles nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures, elles sont toujours fraîches. Moins 4 à 10 degrés demain matin.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Autour de vous ce soir, Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir. L'image, c'est sûr, ne vous a pas échappé. Le son non plus, comme un air de déjà vu, la séquence qui a déjà fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Hélas, dirons-nous, Emmanuel Macron et son coup de sang près de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem tout à l'heure, alors qu'un léger accrochage éclatait entre un membre des forces de sécurité israéliennes et des membres du groupe de sécurité du président. Écoutons.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Nobody has to provoke. Nobody, okay?
Voilà, avec l'accent. La scène s'est déroulée exactement là où Jacques Chirac s'était emporté contre des soldats israéliens. C'était en 1996.
Le 22 octobre.
Exactement. Alors allons-y, Charles Villeneuve, peut-être pour démarrer.
Oui.
Quelle lecture faites-vous de quoi ? Ce coup de communication ? Dites-le nous. Qu'est-ce que c'est ?
Bah, moi, je trouve que c'est de la surcom. Si vous voulez, autant l'altercation entre Jacques Chirac et les services de protection et des agents israéliens était devenue un fait politique et avait assuré une gloire éternelle à Jacques Chirac dans les territoires palestiniens et le monde arabe. Autant là, si vous voulez, ce remake est surjoué, enfin il nous semble en tout cas, c'est surjoué, et ce sera pris, je pense, comme une farce.
Parce que l'accent aussi, ça a l'air anecdotique, Catherine Ney, mais on sait très bien qu'Emmanuel Macron parle très bien de très bien anglais. Là,
il imitait Chirac.
Il imitait Chirac.
Il parlait anglais en imitant Chirac.
Mais il paraît que c'est sous le coup de la colère. Ah ben, perd, paraît-il, l'affectation qu'on met à prononcer.
Oui, mais enfin, c'est quelqu'un qui parle vraiment pour un Français qui parle très bien. Et quand il donne des interviews à des médias américains, il est parfait. Et là, il parlait un anglais que tous les Français pouvaient comprendre, enfin ceux qui ont, comme moi, et qui rappelait tout à fait la façon de Jacques Chirac. Et puis, vous savez, c'était un remake, mais le contexte n'était absolument pas le
bien
même.
Sûr.
Jacques Chirac, d'abord, y compris en Israël, où il y avait des tensions. C'était un an après l'assassinat de Yitzhak Rabin. Enfin, il y avait une grande tension en Israël. Et Jacques Chirac déambulait dans la vieille ville où les Palestiniens, les commerçants palestiniens venaient le saluer et la police israélienne voulait l'empêcher, voulait les empêcher.
C'est ça, lui voulait aller au contact.
Il voulait les empêcher. Serrer la main de
Et là, Jacques il avait
Chirac.
Dit, est-ce que vous voulez que je m'en aille ? Est-ce que c'est ça ? Bon. Et donc, ça avait été... Puis ça avait été... Là, ça n'avait pas été étudié. C'était un mouvement absolument spontané. Tandis que là, tout s'est bien passé pour Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a pu se promener dans la ville.
En toute liberté, en quelque sorte.
Hein, et c'est vrai que c'est en arrivant simplement devant la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, qui est, c'est vrai, un territoire qui a été donné aux Français et qui est gardé par des policiers français, qu'un policier israélien s'est introduit dans la basilique et lui a dit, écoutez, out.
Bon, c'est ça.
C'était un... On a l'impression que c'est quand même un prétexte.
On a l'impression que c'est un prétexte et que tout ça est mis en scène. Pardonnez-moi Charles, juste Gérard Carrérou, pourquoi faire du Chirac 24 ans après ?
Écoutez, je suis vraiment consterné.
Ah oui, carrément.
consterné de cet incident qui fait le tour et qui va faire, à juste titre d'ailleurs, le tour des journaux de 20 heures en France et probablement dans le monde.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, il n'y a que deux possibilités. Et vous les avez évoquées, mes camarades les ont évoquées. Ou c'est le coup de sang, le coup de colère. Non mais, première hypothèse,
tout
c'est le
fait.
Coup de sang, le coup de colère, il s'est énervé. Et c'était à côté de la plaque, parce que l'incident était extrêmement ténu
Mineur.
Par rapport à ce qui s'était passé avec Chirac.
Mineur.
Extrêmement ténu et on ne comprend pas pourquoi un chef d'État s'énerverait à ce point parce qu'un policier israélien avait mis le pied dans la cathédrale Sainte-Anne. Bon. Donc ça, c'est la première hypothèse. Je ne la crois pas vraiment juste. Le deuxième, c'est évidemment le coup de com'. Le coup de com' pour se mettre... Mais alors là, c'est le coup du copycat. Hein, comme on dit dans les serial killers, on dit il y a le tueur et puis il y a le copycat. Et là, le copycat de Chirac. Et si c'est ça, alors on tombe dans quelque chose qui est le ridicule. Et c'est pour ça que je suis consterné.
Surtout
qu'il fait après, comme vient de le rappeler Charles, il fait des excuses après.
Bien sûr, voilà.
Alors il n'assume pas son coup de com', certains préféreront dire son coup de sang. Et c'est ridicule, voilà.
On se reparle dans un instant, on a beaucoup de choses à se dire sur ce sujet. Mon invité Yannis Roeder avait une lecture tout à l'heure, vous me direz si vous avez la même.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir. Vous recevez Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Et nos auditeurs, Antoine Duvar. Bonsoir Antoine, bienvenue au micro d'Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
Oui, bonsoir.
Bah écoutez, encore une fois, moi je trouve ça vraiment regrettable de voir un chef d'État censé garder son sang-froid venir, on va dire, se prendre le bec avec des agents de sécurité. Moi je trouve ça vraiment très regrettable, surtout que c'est pas la première fois. Et puis finalement, eh bien, dans cette histoire, on en vient à oublier l'essentiel. C'est-à-dire, on en vient à oublier l'endroit qui est visité, les circonstances qui font qu'on retrouve quand même trois religions mondiales sur un espace très réduit. Et puis vraiment, que ce qu'on retient de cette histoire ? On retient quelqu'un qui se prend la tête avec des agents de sécurité. Moi, je trouve ça vraiment très, 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 je veux dire, très
dommageable.
Dommage, quoi.
Merci.
Très dommageable. Et franchement, est-ce que c'est son rôle ? Non, je peux pas. Enfin, moi, je pense que la sécurité, c'est le problème des agents de sécurité et qu'il n'a pas à intervenir là-dedans. Et c'est dommage.
Si ce n'est pour faire parler. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir appelé depuis le Var. On vous salue. On salue d'ailleurs toute la région et pas seulement. Catherine Ney, ce qu'on se disait, c'est pourquoi faire du Chirac 24 ans après ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter à Emmanuel Macron, cette espèce de mise en scène, parce que c'est, ça semble gros.
Oui, moi je me demande, est-ce que c'est prémédité ? Est-ce qu'il cherchait ? Parce que la France, il faut le reconnaître, ne joue aucun rôle dans le processus de paix israélo-palestinien.
Oui, bon, enfin, en plus, si
est-ce
a...
que, oui, est-ce que, enfin, et puis, est-ce
le,
que,
le genre de Donald Trump,
est-ce que
aujourd'hui,
c'est aujourd'hui dans le, c'est tout, il y a 50 chefs d'État étrangers qui sont qui sont en Israël pour
le rendez-vous mémoriel, pour les 75 ans,
donc
et ça
gomme tout ça. Donc je me dis, est-ce que c'est une démarche comme ça, tout d'un coup, un peu adolescente, on dit, tiens, un policier israélien est dans un territoire français de Jérusalem, il n'a pas le droit d'y entrer, mais on peut le dire courtoisement, en disant, quand il dit... everybody respect the rule, mais out, il lui a dit d'une manière...
Oui,
je crois. Alors, on va essayer peut-être de trouver une explication
rationnelle.
Politique, parce que c'est un homme politique, un homme d'État. Donc, il y a toujours un peu de politique derrière. Alors, on peut se dire la chose suivante, c'est que il y a actuellement une situation où, avec beaucoup d'antisémitisme en France, avec un sondage où un juif sur trois dit qu'il a été malmené, agressé, enfin bon, a été victime d'antisémitisme. Dans cette situation-là. Le président Macron va en Israël, c'est sa première visite depuis qu'il est président,
Absolument.
Et il donne, en quelque sorte, il dit, ceux qui nient l'existence d'Israël en tant qu'État, ils font de l'antisémitisme. C'est-à-dire
là,
que,
il tape fort.
C'est-à-dire
qu'il
tape fort.
Là, il tape fort.
Non, justement.
Un message
alors,
fort.
Mais c'est tout Macron.
Voilà,
oui. Il tape fort, et c'est sans doute bien de l'avoir fait, à un moment où il y a effectivement l'islamo-gauchisme et tout un ensemble de choses qui se développent en France. Mais en même temps, il compense un peu en disant qu'il ne faut pas que j'apparaisse comme Trump vis-à-vis de Netanyahou, c'est-à-dire comme le meilleur copain qui déplace l'ambassade,
Exactement,
etc. Il faut que je garde une certaine réserve. Et du coup, il fait la petite crise de nerfs avec le...
Pour rétablir l'équilibre, en quelque sorte.
Sauf que c'est raté, ça ne sera pas reçu comme ça.
C'est le en même temps, c'est comme nous le disait Yannis Roder, mon ami, tout à l'heure. Oui, Charles.
Il ne peut pas ignorer, d'ailleurs, que l'altercation de Jacques Chirac avec les services de protection des hautes personnalités israéliens a pesé lourd, si vous voulez, ne serait-ce que, tout à l'heure, je disais, ça a fait le tour du monde arabe, etc. Mais surtout, les Palestiniens, aujourd'hui encore, quand vous allez dans la vieille ville de Jérusalem, pas très loin du Saint-Sépulcre, où se trouve d'ailleurs la basilique Sainte-Anne, etc., ils vous disent, c'est l'homme qui a résisté aux Américains, c'est l'homme qui a résisté aux Israéliens, qui n'a pas peur des Israéliens, et qui, de toute façon, est l'homme qui a refusé la deuxième guerre en Irak. Et vous savez que la municipalité de Ramallah, en 2007, a baptisé l'une des ruelles Jack Chirac. Jack écrit en anglo-saxonne d'ailleurs, J-A-C-K Chirac.
Oui, parce
etc.
qu'il s'y était rendu, évidemment, il était allé rendre visite à Yasser Arafat. À ce moment-là, c'était un triomphe, il y avait des drapeaux français partout.
Ça n'est pas perçu de la même manière chez les Israéliens. C'est perçu comme un coup prémédité de Jacques Chirac, et ce le sera tout autant, et encore je dirais, pire, bah oui, si vous voulez, de l'altercation.
Oui, mais dans un premier temps,
ça fait pas le copie.
Dans un premier temps, c'est. Vous savez, on dit. Là, quand on réédite quelque chose, dans le premier coup, c'est tragique, le deuxième coup, c'est ridicule.
C'est une farce.
C'est une farce. Voilà. Et là, on est plus dans la farce que dans le. Que dans le coup politique. Non.
On se retrouve dans un instant, les grandes voix, tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero et tous deux réactions en direct au 39-21.
On est très international aujourd'hui dans les grandes voix parce que l'actualité nous conduit aussi pour l'instant en Asie. Je dis bien pour l'instant parce qu'on craint aussi en France le coronavirus. Le bilan désormais 17 morts. On était à 9 il y a pourtant quelques heures, en tout cas ce qui était annoncé. Et réunion là d'urgence à l'OMS encore à l'heure où nous parlons, l'Organisation mondiale de la santé, pour comprendre, essayer de voir si une transmission limitée d'humain à humain par contact étroit peut être enrayée, ou en tout cas, quelle est la réponse.
Alors, qui est avant la réponse au virus, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Les États-Unis ont identifié les 5 aéroports principaux où arrivent des Chinois, parce que tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines d'avions.
New York, San Francisco, voilà. Los Angeles, Atlanta.
Exactement, et Chicago. Les Anglais ont fait la même chose, et donc avec des contrôles. Ils ne sont pas seulement identifiés, ils ont mis en place des mesures de contrôle. Les Russes également. Oui. Et chez nous, est-ce que c'est un peu toujours le complexe Tchernobyl où le nuage restera à côté de la frontière? Chez nous, on dit, ben non, de toute façon, c'est pas là. Non, aucune mesure n'a été mise en place dans nos aéroports. Et on dit simplement, ben, les gens qui ressentiront une grosse fièvre, eh ben, ils appelleront le 15.
Agnès Buzyn a qualifié le risque de faible pour une arrivée en France, mais pas exclu.
On va être comme d'habitude, on va être en retard d'un tour ou deux tours. On finira par faire des mesures aux aéroports, mais on le fera après tout le monde et après qu'éventuellement il y ait eu quelques...
Non mais Gérard, je pense qu'il y a un plan. Il y a un plan.
Ben j'espère qu'il y a un
plan. Comme c'était le cas de toute façon pour le SRAS, c'était le cas pour la vache folle, c'était le cas pour tout ce type de virus, mais simplement, ils considèrent que le risque d'extension, si tu veux, dépassant les frontières, pour l'instant se limite à l'Asie, en effet, et notamment la Thaïlande, puisqu'il y a déjà des effets en Thaïlande, il y a des effets au Japon... Il y a aussi en Corée du Sud et à Taïwan.
Et un cas en Amérique.
Voilà, et un cas en Amérique, tout à fait. Oui. C'est la raison pour laquelle ils ont bloqué l'arrivée de tous les gens qui sont allés dans cette région, puisque l'épicentre, je crois, de l'épidémie est à Wuhan.
Oui,
je prononce assez mal.
Vous êtes comme Emmanuel Macron.
Comme
le virus, enfin, d'après ce que j'ai lu, le virus qui est proche de celui là qu'on vient
du SRAS.
Du SRAS.
2003.
2003 avait fait 774 morts dans le monde.
Et 10 000 infectés sur une trentaine de pays.
Bon, 10 000 infectés, mais qui n'étaient pas morts.
Absolument.
Bon. Alors évidemment, ça n'a rien à voir quand vous pensez à la grippe espagnole qui a fait dans le monde plus de 100 millions de morts. Maintenant, on le sait. Alors, c'est arrivé dans les années 18, 19, 20. Et c'est parti en 18. Et d'ailleurs, aux États-Unis, pas du tout en Espagne, comme on l'a dit, mais après dans toute l'Europe, et ça a fait des morts célèbres, dont les peintres Klimt et Gonschil, les Autrichiens. Donc ça a été, c'est vrai, mais c'était surtout ces morts. Mais alors, il faut dire aussi que ça arrivait, on ne connaissait pas ces virus, et ça arrivait après des années de guerre en Europe, en tout cas, où les organismes étaient fatigués, ne pouvaient pas réagir, et surtout. Les infections pulmonaires ne pouvaient pas être repérées et surtout guéries parce qu'il n'y avait pas encore les antibiotiques qu'on a
et
aujourd'hui.
Et là, on dit qu'apparemment, les signaux sont repérables de toute façon assez rapidement et qu'il peut y avoir de toute façon...
La question que je me demande, c'est est-ce qu'une épidémie comme la grippe espagnole est possible aujourd'hui? Voilà. C'est ça qu'il faut se demander. S'il y a 774 morts, le SRAS, on a raison d'avoir peur. Mais enfin, il ne faut pas non plus paniquer. Il faut faire attention, il faut mettre des masques.
Moi, je ne demande pas qu'on panique. Je pense simplement que on nous parle en permanence du principe de précaution et on en abuse de ce principe de précaution. Je pense que là, ça ne serait pas abuser du principe que d'avoir un contrôle. Par exemple, puisque c'est la température, la grande fièvre est le premier symptôme,
de prendre la température
des gens qui débarquent.
Surtout
c'est
que maintenant,
pas très compliqué,
on a des...
Hein. Non, mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'en général, le SRAS, d'ailleurs, lui, se répandait avec par les animaux, les chauves-souris, oui, oui. Et que là, c'est un animal aussi qui répand le virus, mais on ne l'a pas identifié.
Et oui, mais ça passe de l'homme à l'homme.
Voilà, exactement. Oui. Ça passe de l'homme à l'homme. Et
transmissible d'homme à homme.
C'est ça. Et en Chine, ils sont invités à ne pas fréquenter les marchés, à ne pas manger de viande, éviter de manger la viande, etc. Mais si l'OMS décrète...
Ou des œufs,
oui, exactement. Oui. Si l'OMS décrète une urgence internationale, oui. Là, il faudra bien bouger, de toute façon.
On sera obligé.
Parce que là, il semblerait...
Nous viendrons demain avec des masques.
Ben voilà, il semblerait bien. Non, parce que là, ce que nous dit Agnès Buzyn, c'est qu'apparemment, la France se prépare et que de toute façon, la France a potentiellement la réponse médicalement avec le bon vaccin qui répond à cette souche.
C'est pour ça qu'il y a aussi une décision politique dans cette affaire. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne court pas encore de réels risques, ne pas affoler les populations, mais le plan existe indéniablement. C'est la raison pour laquelle elle est intervenue, Buzyn, pour calmer un peu, tout petit peu le jeu. Maintenant, moi, je peux comprendre, et je suis à l'image d'ailleurs de Gérard, c'est que je préfère, je pensais à ça, par rapport aux enfants, par rapport à tous ceux qui nous entourent, notamment, et qui sont beaucoup plus fragiles que nous le sommes.
Mais en attendant, la grippe chinoise, il y a une épidémie de grippe en France qui a commencé en région parisienne et qui... avec un pic et qui est maintenant dans le sud-ouest, dans différentes régions où il y a une épidémie de grippe.
Et quand même, ce qu'il faut dire en 10 secondes, c'est qu'en plus, les symptômes sont un peu semblables. Oui. Et c'est peut-être là que ça deviendra compliqué. Oui. C'est que comment on détectera si on a...
fièvre. C'est...
Exactement. Bon, bah, demain, tout ça en masque. Oui, avec tous avec
je
notre masque.
Je me sens un peu fiévreux. Oh là là.
Alors, filez. Merci les grandes voix. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Sébastien Krebs pour un grand journal du soir. Et puis, le programme avec la politique entre autres.
Nathalie Lévy, 2 heures d'info. L'info qu'il vous faut, c'est jusqu'à 20h tous les jours sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, votre grand journal du soir avec la suite pour la prochaine heure, Nathalie.
Alors, vous voulez tout savoir ?
Oui,
je vous livre tout. 19h10, ouverture imminente de la plateforme Parcoursup. Les élèves de terminale peuvent, ça y est, aujourd'hui, formuler leurs vœux pour leurs études. Alors, quelle nouveauté cette année ? Aurélie Herbemont interroge la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Écoutez bien toutes ses réponses. Demain en France, demain dans le monde, c'est 19h20. C'est ça, écoutez Le Monde changé sur Europe 1. Et puis 19h30, coup de projecteur sur un monument de la littérature, Albert Camus, qui nous quittait... il y a 60 ans, France 3 lui consacre un documentaire ce soir, signé Georges-Marc Benamou. Il est dans ce studio tout à l'heure, à mes côtés. Et puis le dernier défilé pour Jean-Paul Gaultier. On sera presque dans les coulisses, c'est promis.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Oui, ils vont mettre un petit 2-1, moi je vois. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, donc ce serait bien qu'on le fasse maintenant. Allez, les stades.
La Champagne va vibrer ce soir. Reims défie le PSG pour une place en finale de la Coupe de la Ligue de foot.
Une réunion de crise en cours à l'OM. Est-ce qu'elle mesure prendre face au coronavirus apparu en Chine ? On est à 17 morts désormais.
Dans ce journal également, Emmanuel Macron à Jérusalem. Virulent coup de gueule contre les policiers israéliens. Et puis, le prince saoudien Ben Salman, suspecté d'avoir piraté le téléphone portable du patron d'Amazon.
Rien que ça, et la tendance météo, c'est Anissa.
Toujours très compliqué dans le sud avec la tempête Gloria qui fait encore des ravages puisque 2 départements viennent d'être placés maintenant en vigilance rouge, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Je vous dis ce qui va se passer dans les prochaines heures à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Comment endiguer la propagation du coronavirus apparu en Chine ? Est-ce une urgence de santé mondiale ? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se penche sur ces questions en ce moment même. Pauline Jacquot, bonsoir.
Bonsoir.
Car le bilan s'est fortement alourdi ces dernières heures. 17 morts désormais.
Oui, l'épidémie s'étend maintenant à la moitié des provinces chinoises. De nouveaux cas sont apparus à Hong Kong et Macao. Après les États-Unis et l'Asie, c'est l'Europe qui contrôle à son tour ses aéroports. Le Royaume-Uni et l'Italie. Des équipes médicales sont chargées de surveiller les passagers qui arrivent de Wuhan. La France, elle, n'a pas encore annoncé de telles mesures. Ça pourrait évidemment changer suivant les décisions de l'OMS.
Alors, que peut justement annoncer l'Organisation mondiale de la santé ?
Eh bien, elle peut décréter cette urgence de santé mondiale. Si elle le fait, ça veut dire 3 choses. Premièrement, la situation est grave, soudaine et inattendue. Deuxièmement, oui, il y a un risque de propagation internationale. Et troisièmement, oui, il faut une réponse coordonnée de tous les pays. Ce serait la 6e fois que l'OMS décréterait cette urgence. Elle l'avait fait notamment pour Zika, Ebola et lors de l'épisode de grippe H1N1 en Asie.
Les précisions de Pauline Jacquot, merci. Un premier cas a été détecté aux États-Unis aujourd'hui.
On en vient maintenant à la visite pour le moins agitée d'Emmanuel Macron en Israël.
C'est clairement l'image qui va rester de ce voyage, ce coup de sang cet après-midi dans la vieille ville de Jérusalem-Est. Mimétisme flagrant, probablement volontaire, avec Jacques Chirac qui en 1996 avait connu le même genre de coup de gueule. Le président qui s'énerve en anglais devant les caméras contre les policiers israéliens.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Nobody has to provoke. Nobody, ok?
Coup de gueule car ces policiers israéliens gardaient l'église Sainte-Anne qui est un territoire français.
Alors le président français qui participera demain aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et qui a vivement défendu ce matin par ailleurs son combat contre l'antisémitisme.
Nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État est un antisémitisme. Nous avons passé des lois, pris des premières décisions, d'autres vont venir, en particulier qui nous permettront de lutter encore plus efficacement contre les discours de haine et entre autres l'antisémitisme sur Internet.
Emmanuel Macron au micro d'Adrien Beck à Jérusalem.
Alerte rouge ce soir sur deux départements. C'est à la une, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La tempête Gloria, comme attendu, apporte beaucoup, beaucoup de pluie.
Et dans le secteur de Perpignan, la cote d'alerte de l'Agly a été atteinte. Le cours d'eau déborde. 1500 habitants ont dû être évacués de 6 communes environnantes. Dans le département voisin, c'est la haute vallée de l'Aude jusqu'à Carcassonne qui est aussi en alerte rouge.
En Dordogne, les gardes à vue de deux agents d'Enedis s'arrêtaient ce matin. Ces gardes à vue ont été levés. Ils sont suspectés d'avoir participé à une action contre la réforme des retraites. Le courant avait été coupé dans une usine Seveso.
Le patron de la CGT, Philippe Martinez, estime que ces arrestations jettent de l'huile sur le feu.
L'ancien ministre Pierre Joxe, lui, a obtenu gain de cause en justice.
L'écrivaine Ariane Fournier, la fille d'Éric Besson, l'a accusée dans un article sur son blog d'agression sexuelle. Elle est condamnée pour diffamation à lui verser 1 euro symbolique. Elle va faire appel.
On file à Davos, en Suisse. Bruno Le Maire annonce un accord sur la taxe GAFA. Les Américains sont prêts à suspendre leurs sanctions, annonce le ministre de l'économie.
Un cadre global a été trouvé. La France envisage de reporter en retour le paiement des acomptes de cette taxe à décembre 2020.
L'Arabie Saoudite a-t-elle espionné le patron d'Amazon? Son téléphone, en tout cas, a été piraté.
Deux experts de l'ONU réclament une enquête. Ils soupçonnent le prince héritier saoudien Ben Salman d'être à l'origine de ce piratage. Xavier Yvon, vous êtes aux États-Unis. Les détails sont dignes d'un roman d'espionnage.
Ah oui, ça se passe il y a 2 ans. L'homme le plus riche du monde et le prince du royaume pétrolier se rencontrent lors d'un dîner à Los Angeles. Ils échangent leur numéro de téléphone et puis restent en contact via la messagerie WhatsApp. Un mois plus tard, Mohamed Ben Salman envoie une vidéo à Jeff Bezos. Le fichier contient en fait un virus qui permet de rentrer dans le téléphone du patron d'Amazon et de voler une très grande quantité de données en quelques heures. C'est la conclusion de l'enquête d'une firme de sécurité informatique missionnée par le milliardaire. Et c'est comme ça, selon lui, que sa liaison extra-conjugale s'est retrouvée à la une d'un tabloïd américain, révélation avec SMS et photos intimes, ce qui a conduit Jeff Bezos à un divorce très coûteux.
Et oui, alors si l'ONU s'y intéresse, c'est parce que cela touche à l'enquête, Xavier Yvon, l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.
Et oui, parce que Jeff Bezos est aussi le propriétaire du Washington Post, le journal qui publiait les tribunes de Jamal Khashoggi dénonçant le régime de Riyad. Le piratage du téléphone de Bezos a eu lieu 5 mois avant l'assassinat de Jamal Khashoggi. Et les enquêteurs de l'ONU soupçonnent donc un lien entre les deux événements. Ils réclament une enquête approfondie sur le rôle du prince héritier dans la mort du journaliste.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et puis à New York, c'est le procès du producteur Harvey Weinstein qui rentre dans le vif du sujet après 10 jours consacrés à la sélection des jurés. Place aux premières plaidoiries. Et puis cette dernière information, il va retourner dans l'espace. Thomas Pesquet va redécoller vers la Station Spatiale Internationale à l'été 2021. Il l'a annoncé aujourd'hui devant les députés français.
Qui rejoindra Lyon en finale de la Coupe de la Ligue? Reims, voilà. Ou le PSG?
Vous êtes prêts? Coup d'envoi de la deuxième demi-finale. Ce soir, c'est à 21h. Bonsoir Cyril de la Morinerie. On entend l'ambiance derrière vous à Reims.
Grosse ambiance effectivement devant le stade Auguste Delaune où des milliers de supporters affluent. C'est l'événement, l'enceinte sera pleine. Voilà, il crie tellement fort, j'avais plus à parler. Une première cette saison, puisqu'ils seront plus de 20 000 supporters. Ce sont les stars du Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, Icardi. Et puis Reims n'a plus goûté à l'ivresse d'une finale depuis 1977. C'est tout l'enjeu de ce match entre des Rémois très solides défensivement et l'attaque de feu du Paris Saint-Germain qui a marqué 86 buts, toutes compétitions confondues. Mais il y a parfois un conflit de génération, figurez-vous, dans les rangs stadistes. J'ai rencontré tout à l'heure Reynald et son fils Kyron. Le papa est fan du mythique club rémois et il n'a pas réussi à convertir son fils admiratif, lui, des stars parisiennes.
Oui, ils vont mettre un petit 2-1, moi, je vois.
Pourquoi ils vont gagner, les Rémois ?
Parce qu'on a l'envie. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, donc ce serait bien qu'on le fasse maintenant.
Le fiston, il n'est pas d'accord.
Eh, lui, il est pour Paris, papa est pour Reims, donc bon, on verra bien. Allez, le stade, c'est le stade qui va gagner.
Allez, Paris !
Voilà, et contrairement à dimanche à Lorient en Coupe de France, où Paris s'est imposé 1-0, eh bien Mbappé et Neymar pourraient jouer cette fois ce soir au stade Auguste Delaune pour laisser le moins de chances possible aux Champenois, qui eux compteront notamment sur la ferveur de leurs supporters pour créer l'exploit. Oui.
Voilà, il y a de l'ambiance, beaucoup d'envoi.
Des supporters motivés. Hein.
C'est à 21h, Cyril Delamorini. Ce sera sans Cavani dans les rangs du PSG. Il est toujours absent, Cavani. Et il a de fortes chances de rejoindre l'Atlético Madrid cet hiver ou l'été prochain. C'est ce que dit son père.
Merci Sébastien. On se retrouve à 19h30. Anissa, du côté du ciel, comment vont se dérouler les prochaines heures pour les habitants du Sud-Ouest ?
Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que deux départements sont placés en vigilance rouge. Inondation et crue, c'est l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors pour les prochaines heures, si vous nous écoutez dans cette région, sachez que les pluies très intenses vont encore tomber ce soir dans l'intérieur des terres. Donc très grande prudence, très grande vigilance. L'amélioration est prévue pour demain matin entre 6h et 9h. Alors demain, au lever du jour, sur les Landes, le Pays Basque, le Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, il pleut encore demain matin, mais des pluies beaucoup plus modérées que ce qui s'est passé cette nuit et ce qui va se passer cette nuit. Des pluies qui, dans l'après-midi, laisseront place à un ciel nuageux avec même quelques éclaircies. Attention en bord de mer, du Golfe du Lion jusqu'à la Côte d'Azur et même sur la Corse, c'est le vent d'Est qui souffle jusqu'à 90 km/h. Sur le reste de la France, c'est un temps plutôt ensoleillé avec quelques passages nuageux, mais un plutôt beau temps d'hiver. Nathalie, pour vous résumer la tempête Gloria, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un événement exceptionnel pour la saison. Écoutez bien, plus d'un mètre vingt de neige tombée depuis lundi sur les Pyrénées-Orientales, des vagues de 14 mètres en Espagne, une hauteur des cours d'eau de plus de 2 mètres depuis mardi dans le sud-ouest de la France et plus de 3 mois de pluie tombée depuis lundi dans le sud-ouest. Donc on garde un œil bien sûr très vigilant sur cette région et on vous tient au courant sur Europe 1. Les températures, moins 4 à 10 degrés demain matin, dans l'après-midi 5 à 17.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique, bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir,
Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur. Parcoursup est ouvert, les lycéens sont en stress.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 et tout de suite place à l'interview politique, Nathalie Lévy.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, la ministre supérieur et de la recherche Frédéric Vidal.
Bonsoir Frédéric Vidal.
Bonsoir.
Une manifestation devant le lieu de votre cérémonie de vœux hier soir. Vos collègues de Bercy qui reçoivent des lettres de menaces de mort. Emmanuel Macron chahuté au théâtre ce week-end. Des coupures d'électricité effectuées par la CGT. Est-ce que ce climat autour de la réforme des retraites vous inquiète ?
Ce sont effectivement des actions qui ont des portées différentes. On a le droit de manifester et ça c'est évidemment un droit qui est tout à fait fondamental, comme on a le droit de faire la grève, c'est aussi un droit qui est tout à fait fondamental. On n'a pas le droit de couper l'électricité, soi-disant de façon sélective, enfin, déjà qu'on nous explique quel est le côté sélectif de ces coupures, de mettre en danger la vie des gens, de les perturber. Voilà, donc il y a une montée d'actions qui sont totalement condamnables, évidemment. On voyait des lettres de menaces avec des balles à des ministres. C'est aussi, évidemment, condamnable. Chaque fois que c'est nécessaire, des plaintes sont déposées. Mmh.
Vos collègues, d'ailleurs, de Bercy l'ont fait.
Absolument.
Et vous craignez que ça dure ou vous dites, vous appelez à l'apaisement, puisque vendredi, le projet de loi sera officiellement déposé en Conseil des ministres ?
Évidemment, on appelle au dialogue. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, depuis des mois. Pour dialoguer, il faut être plusieurs, au moins deux. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour discuter justement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ces actions, elles n'ont rien à voir avec du dialogue. Et donc, évidemment, elles sont éminemment condamnables.
Parlons de Parcoursup, Frédéric Vidal. Donc, c'est la plateforme d'inscription pour les études supérieures qui a ouvert aujourd'hui. Alors, Parcoursup qui suscite toujours des angoisses. Le Parisien dévoile une étude auprès de 12 000 jeunes qui disent appréhender Parcoursup et ne pas avoir confiance. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer et peut-être aussi leurs parents? Parce que le choix de l'orientation, c'est un moment de stress pour toute la famille.
Exactement. En fait, vous avez raison. Je crois que le moment de l'orientation, c'est un moment de stress. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons augmenté le temps consacré à l'orientation dans le secondaire, et c'est ce que porte Jean-Michel Blanquer, et puis que nous disons aussi aux étudiants que ce que permet la plateforme Parcoursup, c'est d'avoir plus d'informations, d'être accompagné par les professeurs principaux qui font un travail remarquable et que vraiment je leur remercie.
Les craintes sont infondées donc?
C'est-à-dire que c'est normal. Moi,
c'est normal.
Je dis qu'il y a une forme de rite autour du passage entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et c'est normal, c'est un mélange d'excitation et de crainte. Je leur dis de se renseigner, de trouver des copains qui l'ont fait l'année dernière et pour qui ça s'est probablement très bien passé.
Alors certains ont peut-être encore plus de crainte que les autres. Ce sont ceux qui veulent s'inscrire pour des études de médecine. Est-ce que vous pouvez leur garantir qu'en septembre, la réforme des études de médecine sera mise en place dans toutes les facs et que ceux qui s'inscrivent aujourd'hui sur Parcoursup n'auront pas de mauvaise surprise?
Évidemment, hein, les universités et les facultés de médecine ont fait un travail remarquable en ce sens. C'est plus de 400 nouvelles possibilités d'accéder aux études de santé qui sont offertes au travers des licences accès santé. C'est 108 sites dans lesquels on va pouvoir démarrer ses études de santé contre à peine un peu plus de 60 l'an dernier. Donc c'est évidemment pour mieux les accueillir et là encore mieux les accompagner dans leur projet.
Vous avez débloqué 16 millions d'euros pour que les facs puissent s'adapter à cette réforme des études de médecine. Les doyens des facs disent ce ne sera pas suffisant. Est-ce que vous pourrez faire plus, Frédéric Vidal?
Moi je l'ai annoncé hier soir lors de la cérémonie des vœux. C'est 9 millions d'euros supplémentaires qui vont être mis à disposition.
Ça sera suffisant cette fois, vous espérez ?
Je tiens à saluer vraiment le travail remarquable. Ces 400 nouvelles voies d'accès aux études de santé qui vont être offertes aux étudiants dès la rentrée prochaine, c'est évidemment quelque chose que le gouvernement souhaite accompagner parce que c'est aussi la possibilité de démarrer des études de santé partout sur le territoire. Mmh. C'est extrêmement important. Ça permet à des jeunes qui parfois s'auto-censuraient en se disant que partir étudier loin de chez eux pour accéder à ces études de santé, c'était un double risque parce que très souvent, ces études menaient à un échec des très bons bacheliers. Et donc, toute la philosophie, c'est que maintenant, on puisse progresser dans ces études et accéder soit aux filières santé, soit à d'autres filières qui ont été pensées par les établissements.
Alors, autre sujet qui vous concerne particulièrement ces jours-ci, vous avez annoncé la hausse des rémunérations des jeunes chercheurs qui, donc à partir de l'an prochain, seront recrutés à hauteur de 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, ils gagnent beaucoup moins. C'était une nécessité pour éviter ce qu'on peut appeler la fuite des cerveaux à l'étranger?
Absolument. Dans les discussions qui ont eu lieu depuis plusieurs mois dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, ce qui est venu vraiment en priorité dans toutes les discussions, c'était la question de la faiblesse de la rémunération au moment du recrutement. Et nous nous sommes engagés à ce que les jeunes maîtres de conférences, les jeunes chargés de recherche soient recrutés à au moins 2 SMIC. Mmh. À partir de 2021. Pour certains, c'était 1,3, 1,4 SMIC jusqu'à présent.
J'imagine que c'était un sujet très important pour le chef de l'État, pour l'attractivité de la France, qui vous a peut-être un peu dit qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent là-dessus.
C'est un sujet qui a été vraiment porté par l'ensemble de la communauté. C'est une demande qui en fait existe depuis très longtemps. On a laissé se paupériser les métiers de la recherche en général, et tout l'objectif de cette loi de programmation de la recherche, qui ne se résume pas bien sûr à cette mesure, c'est vraiment une mesure emblématique que j'ai souhaité
26 millions d'euros, c'est ça qui sont débloqués
hier soir, oui. J'ai aussi annoncé une revalorisation de la politique indemnitaire. Ce sont des sujets qui sont complexes techniquement, donc nous avons commencé dès ce matin à y travailler avec les représentants des personnels et les conférences pour savoir comment est-ce qu'ensuite on implémente ça. Voilà, c'est un début. Et c'est aussi pour rappeler à quel point cette loi de programmation de la recherche, c'est avant tout le souhait du gouvernement, le souhait du président de la République de réinvestir massivement dans notre recherche parce que c'est ce qui prépare notre avenir en réalité.
En réalité, c'est ça qui prépare l'avenir. Effectivement, vous le disiez, c'est un des sujets auxquels tient le chef de l'État. Dernier point sur lequel je voulais vous interroger, est-ce qu'il y a un souci dans le supérieur avec le débat ? On voit que cette semaine, une conférence avec Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est annulée à Sciences Po Lille. Il y a quelques semaines, c'est une conférence de François Hollande à la fac de droit à Lille qui n'avait pas pu se tenir parce que des manifestants avaient déchiré ses livres. Il y avait eu aussi un épisode avec Sylviane Agacinski qui n'avait pas pu aller débattre à la fac à Bordeaux. Est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur ?
Moi, je crois qu'il faut réaffirmer qu'évidemment, l'université, c'est avant toute chose un lieu de débat, un lieu où on peut argumenter, un lieu où on peut dialoguer. C'est absolument pas un lieu de prosélytisme. Ce qui est important, c'est que les chefs d'établissement, les présidents, les directeurs d'établissement soient en capacité de garantir cela. Et parfois, il faut reporter, parfois, il faut revoir les organisations. Voilà, c'est évidemment leur responsabilité, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que bien sûr, l'université doit rester un lieu de débat, un lieu ouvert, un lieu où on argumente et où on s'écoute.
Et on s'écoute et on peut parler de tous les sujets. Merci
absolument.
Beaucoup Frédéric Vidal
merci
d'avoir été mon invité.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
Et oui, restez avec nous parce qu'après 19h30, c'est le documentaire à ne pas rater ce soir. Il est passionnant, il est diffusé sur France 3. Les vies d'Albert Camus, disparu tragiquement il y a 60 ans. Je reçois son réalisateur, Georges-Marc Benamou, qui en parle comme personne.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et Nathalie Lévy, on prend un temps d'avance tous les jours avant 19h30 pour voir le monde changer avec ce qui va se passer demain.
Et oui, et on va aller dans une région en Charente où on s'inquiète. Le sujet qui nourrit toutes les conversations, c'est la réapparition du loup dans ce département. Une première d'ailleurs depuis près d'un siècle, les éleveurs sont inquiets pour cause. L'animal a été filmé, figurez-vous, pris en photo dans le sud-est du département, c'est-à-dire en fait à la limite de la Dordogne. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Nathalie.
Vous
bonsoir à tous.
Êtes le correspondant de Europe 1 dans le sud-ouest. Alors, les autorités l'ont indiqué, l'authentification est formelle. Il s'agit bien d'un spécimen de loup gris.
Absolument, pris en photo et filmé près de la commune de Gura. Il trottait tranquillement. On estime à environ 500 le nombre de loups en France aujourd'hui. Depuis sa réintroduction au début des années 90 via l'Italie et les Alpes du Sud, le croiser fortuitement en Charente obéit à une logique. L'espèce se déplace vers l'ouest, explique le chef départemental de l'Office français de la biodiversité, Jean-Yves Morellec.
Depuis, d'autres loups ont dû franchir la frontière et puis ceux-là ont reproduit. Et donc, ils progressent lentement vers l'ouest de la France et le nord. Il ne faut pas s'en inquiéter. Ça fait déjà presque 30 ans qu'il est en France. Dans les temps modernes, il n'y a plus de problème de loups. Les problèmes étaient auparavant dus à d'autres facteurs, la rage. L'État est là pour aider, entre autres, la profession agricole à prendre des mesures s'il y avait besoin. Mais je le répète, ce sont des animaux qui sont en recherche de territoire. Ils peuvent parcourir de très grandes distances en très peu de temps. Il est peut-être déjà loin de l'endroit où on l'a observé.
Et les jeunes loups se détachent de la meute pour s'émanciper, d'où la dispersion qui conduit à observer ainsi un individu isolé, le loup qui se nourrit chez nous de chevreuils, de lapins, de ragondins, de sangliers, avec des méthodes de chasse, me disait-on, assez efficaces face aux sangliers qui se méfient sans doute de l'homme, mais moins du loup, puisque se retrouver face à lui est assez nouveau.
Et oui, et même en pleine journée, hein, parce que c'était le cas avec celui-là. Merci beaucoup Stéphane Place dans le Sud-Ouest, merci à vous. Demain dans le Monde, c'est avec Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Évidemment, on va au Proche-Orient, en Israël principalement, marqué par les cérémonies de commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, avec une quarantaine de chefs d'État, de gouvernement. Ils vont participer à ce forum mondial de l'Holocauste. Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui même en Israël.
Oui, parce que les commémorations se tiendront cette année à Yad Vashem, ce magnifique mémorial de la Shoah, bâti aux portes de Jérusalem, un lieu vraiment bouleversant, qui est dédié au souvenir du génocide des 6 millions de Juifs exterminés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important parce que désormais, pratiquement tous les survivants de l'Holocauste ont disparu. Il n'y a plus de témoins directs. Or, tous les sondages montrent que les nouvelles générations connaissent extrêmement mal cette part de notre histoire. Les chiffres sont inquiétants. En France, un jeune sur cinq de 18 à 34 ans dit ne pas savoir ce qu'est la Shoah, alors que parallèlement, les actes d'antisémitisme ont littéralement bondi l'an passé avec une progression de 69%, ce qui est énorme.
Et on compte quand même sur la voix des quelques rescapés, Ginette Colinquet qui sera chez Fabienne Lemoyle samedi notamment. Alors, les polémiques, elles s'enchaînent, j'allais dire, Didier, elles n'épargnent pas cette cérémonie qui devrait être un moment de communion, d'éducation.
Oui, mais parce que la question de la participation de certains États à l'entreprise d'extermination des Juifs par les nazis est aujourd'hui un enjeu pour des dirigeants nationalistes européens. Et c'est celui d'un bras de fer entre la Pologne et la Russie qui se détestent cordialement. Là-dessus, rien de nouveau. Et donc, les Polonais n'ont pas invité Vladimir Poutine aux cérémonies de commémoration prévues à la fin de la semaine dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, alors que c'est pourtant l'armée rouge, et donc la Russie, qui a libéré ce camp. Le Kremlin était donc furieux, mettant en avant le sacrifice énorme de l'Union soviétique et de ses 27 millions de morts pour défaire l'Allemagne fasciste. Les Israéliens, en revanche, ont réservé une place d'honneur à Vladimir Poutine, qui fera un discours à Yad Vashem. Et donc, c'est maintenant le président polonais, Andrzej Duda, qui boude et qui a renoncé à se rendre à Jérusalem.
La guerre, la concurrence des mémoires, comment instrumentaliser aussi l'histoire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Didier François, merci à vous. Demain merci. Dans nos vies, le rendez-vous pour se projeter dans le monde de demain. Bonsoir Théophile Cossa, bienvenue.
Bonsoir Nathalie.
Alors, petite révolution en vue dans le transport aérien, on voyagera peut-être bientôt dans des avions sans pilote.
Oui,
moi,
Nathalie.
Je m'en parle.
Oh non.
Attendez. Figurez-vous qu'Airbus vient de réussir une prouesse jamais réalisée, faire décoller un avion de ligne en mode 100% automatique, sans le pilote d'un homme. Dans le cockpit, il y avait bien un pilote et un copilote, mais juste pour surveiller si tout allait bien.
Alors donc, le pilote automatique dans les avions, en fait, ça fait longtemps que ça existe.
Alors oui, ça fait longtemps que ça existe, c'est vrai, mais jusqu'ici, il fonctionnait seulement dans les airs. Vous savez, les pilotes gardaient le contrôle pour le décollage et l'atterrissage. Eh bien, ils vont pouvoir lâcher le manche. En fait, ce sont des caméras fixées sur le nez de l'avion qui vont permettre à l'ordinateur de bord de guider l'appareil en s'assurant qu'il est bien dans l'alignement de la piste. L'ordinateur va également analyser la force des vents, les frottements, les obstacles. Bref, tout comme un vrai commandant de bord.
Bon, alors le compte y est, mais l'atterrissage alors ?
Pour l'atterrissage, c'est bien parti aussi. Airbus prévoit de réaliser des tests dans le courant de l'année.
Ça compte quand même l'atterrissage.
Et c'est là, je vais peut-être vous décevoir ou vous rassurer. Non, ce n'est pas la fin des pilotes dans l'avion. Airbus explique que ces technologies seront plutôt là pour les soutenir et leur permettre de se concentrer sur les prises de décision. Par contre, Airbus n'exclut pas l'idée de supprimer à terme le poste de copilote. Un beau cadeau pour les compagnies qui feraient ainsi une économie de 10 milliards d'euros par an. Cela devrait d'abord concerner les vols cargo avant de se généraliser au transport de passagers d'ici la fin de la décennie. Attachez vos ceintures, parez au décollage.
Mais à quand les hôtesses aussi qui disparaissent ou remplacées par des robots ?
J'y ai pensé, je pense qu'on n'en est pas loin.
Bon, merci quand même Théophile Cossa, merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nathalie.
Le rappel des titres est juste après 19h30. Georges-Marc Benamou, mon invité ce soir pour nous parler d'Albert Camus. Son documentaire est diffusé sur France 3. Albert Camus, monument de la littérature. Écoutez ce que va nous livrer Georges-Marc Benamou.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir à 19h30, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Georges-Marc Benamou est mon invité dans une seconde, il est déjà là. On va se parler évidemment de Albert Camus, mais d'abord l'info avec vous Sébastien Krebs.
Le voyage agité d'Emmanuel Macron en Israël avant les commémorations demain du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Sa visite dans la vieille ville de Jérusalem-Est aujourd'hui a été marquée par son coup de gueule contre les policiers israéliens, comme Jacques Chirac en son temps. Alerte rouge au cru dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales sous les fortes pluies de la tempête Gloria. Le cours d'eau Agly déborde. 1500 habitants ont été évacués. À retenir aussi ce soir à Washington, deuxième jour du procès en destitution de Donald Trump. Le Sénat entame les débats de fond. En football, Reims-PSG, 21h, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. La disparition de l'un des Monty Python, le comédien britannique Terry Jones, est mort à 77 ans, co-réalisateur de Sacré Graal avec Terry Gilliam. Et puis les adieux de Jean-Paul Gaultier à la haute couture, c'est ce soir. Le créateur promet un grand défilé show célébrant ses 50 ans de carrière.
Et oui, on s'en parle dans un instant avec Diane Chinouda. Elle arrive aussi dans ce studio. En attendant, Anissa, du rouge dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, deux départements en vigilance rouge, crue, inondation, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, avec des pluies très intenses qui vont encore tomber ce soir dans l'intérieur des terres. Soyez extrêmement prudents. L'amélioration est prévue pour demain entre 6h et 9h. Je vous rappelle que depuis lundi, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie dans cette région. Alors demain, sur les Pyrénées, il va neiger également, mais à
plus haute altitude que ces derniers jours, à partir de 1800 mètres. Et puis des éclaircies vont se développer dans l'après-midi. Attention au début de journée sur le quart nord. Attention aux brouillards matinaux qui resteront assez persistants sur les Hauts-de-France dans l'après-midi. De la Bretagne à la vallée du Nord, le ciel est voilé avec quelques belles apparitions du soleil. Et puis sur le Cotentin, la région parisienne, le Val-de-Saône, la Bourgogne-Franche-Comté et toute la façade est, là, c'est une très belle journée, très ensoleillée dans un ciel bleu. Attention, les températures sont fraîches. À l'est, moins 5 à 2 degrés demain matin. Nous aurons 1 degré au début de la journée à Paris. Dans l'après-midi, 5 à 17 de Beauvais à Marseille, 8 pour la capitale.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec un rendez-vous télé à ne pas manquer ce soir. Il y a 60 ans, Albert Camus et disparaissait dans un accident de voiture. France 3 lui rend hommage grâce à un documentaire signé Georges-Marc Benamou. Et c'est votre invité, Nathalie Lévy.
Bonsoir Georges-Marc Benamou.
Bonsoir Nathalie
Merci
Lévy.
Merci d'être ici sur, dans ce studio, journaliste, scénariste, producteur de cinéma et donc réalisateur de ce documentaire qui sera diffusé tout à l'heure, soyons précis, à 21h05, c'est bien ça ?
Oui, oui.
Sur France 3, ce documentaire avec la voix de Philippe Torreton. Alors je voudrais juste que vous me répondiez sur ce point-là rapidement. Philippe Torreton, pourquoi lui ?
Moi, c'est c'est un enfant du peuple, oui. C'est un enfant du peuple, c'est un fils du peuple. Et Camus, c'est pas un intellectuel, c'est pas un mec de Saint-Germain-des-Prés, comme on l'a dit. C'est l'enfant pauvre de Bellecour. Et Philippe Torreton le raconte et nous emporte dans ce récit avec beaucoup d'humanité, oui. Son humanité. Une vie qui est un roman, d'ailleurs.
Avec une tonalité, une sonorité dans la voix, évidemment très marquée. On aime beaucoup et donc on appréciera d'autant plus ce qu'il nous racontera ce soir, parce qu'on est donc 60 ans après la disparition d'Albert Camus. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Il reste la réévaluation, c'est-à-dire c'est un des auteurs les plus lus au monde encore aujourd'hui, aussi bien en France, L'Étranger, son roman est un des livres les plus lus au monde, ses pièces de théâtre sont jouées dans le monde entier, il y a des pays camusiens, je crois la Hongrie, le Japon, les États-Unis, des pays qui le sont moins, et vous voyez Catherine Camus qui depuis bientôt 60 ans gère cette œuvre, transmet des pièces de théâtre, ne serait-ce qu'il y a quelques jours Abdelmalik au théâtre du Châtelet qui montait une pièce de slam inspiré d'Albert Camus.
Ça c'est, un hommage très fort, très puissant et très important pour la nouvelle génération.
Absolument. Et l'autre fois, à Marseille, on voulait présenter avec Catherine Camus le film à Marseille, avec Renaud Muselier. Et dans les premiers rangs, il y avait des gamins et des gamins qui ont applaudi et qui étaient émus et qui se reconnaissaient dans cet auteur de la fraternité, de la Méditerranée, loin des embrouilles parisiennes, comme on disait ce jour-là.
On va écouter sa fille, justement, Catherine Camus, parce que vous avez évidemment travaillé avec elle pour ce documentaire qui est très nourri d'archives. Hein. Écoutons-la.
Au lycée, il découvrira la comparaison et la honte, mais aussi écrira-t-il plus tard la honte d'avoir honte.
C'était tout des gens, des bourgeois, quoi, au lycée. Il n'y avait pas beaucoup, des gens, papa. Mon père, là-dessus, Sartre a raison. Hein. C'était un voyou des quartiers d'Alger. T'es toujours dans la rue.
Je disais nourri d'archives, mais nourri d'archives restaurées, colorisées, des témoignages. On vient d'entendre Catherine qui vraiment gère l'œuvre de son père. Il y a aussi la dernière maîtresse d'Albert Camus, Michel Bouquet, comédien, ami d'Albert.
Oui, c'est très émouvant. Et grâce à Olivier Todd, qui est le grand biographe d'Albert Camus, qui nous a conseillé pour ce film, il nous a permis de rencontrer la dernière passion d'Albert Camus. Elle s'appelle Mette Hiver. Elle est d'origine danoise. C'est une remarquable peintre et illustratrice. Et elle a bien voulu raconter cette rencontre. Elle a à peine une vingtaine d'années. Ça se passe au Café de Flore. Et c'est là que commence la grande dernière histoire d'amour de Camus. C'est-à-dire qui sera un homme qui aimera conjointement. Et c'est très étrange, on le raconte dans ce film. Plusieurs femmes, sans cynisme d'ailleurs, c'est peut scandaliser les mœurs d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Il avait comme ça quelque chose de très moderne en fait, Albert Camus, quelque chose de très moderne, beaucoup de charisme, beaucoup de fantaisie aussi chez Camus. Et vous parliez de plusieurs vies sentimentales, mais plusieurs vies tout court, Albert Camus.
Les vies d'Albert Camus, l'enfant pauvre d'Alger, le footballeur fou il aurait dû être footballeur normalement, il aurait dû être goal, sauf qu'il a la tuberculose qui vient le foudroyé à l'époque, il n'y a pas de médicaments, c'est mortel. Et cette tuberculose, elle le fait évoluer. C'est-à-dire qu'il va finalement faire des études sous l'impulsion de ses professeurs. Il y a des anges gardiens qui se posent sur son destin et découvrir la littérature. Mais il est un intellectuel sans être un intellectuel.
C'est
on verra sa bagarre avec les cyniques et avec les... Il est l'amoureux. Et tout ça en 46 ans.
On va y venir justement. Vous dites, finalement, il est populaire, mais dans le bon sens du terme. Peut-être consensuel, vous allez me dire ça dans un petit instant. Ça s'appelle Les Vies d'Albert Camus. C'est ce soir à 21h05. Rentrez vite chez vous pour allumer la télé sur France 3.
Et si vous avez prévu de regarder ce documentaire et si vous avez des questions à poser à Georges-Marc Benamou, il vous écoute, il vous répond au 39-21, votre grand journal du soir. C'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec un programme à ne pas manquer ce soir sur France 3 à 21h05, Les Vies d'Albert Camus. C'est un documentaire signé Georges-Marc Benamou. Il est votre invité, Nathalie Lévy.
Et oui, ce documentaire avec la voix de Philippe Torreton pour refaire le film Des Vies d'Albert Camus. On disait Des Vies, Georges-Marc Benamou, juste avant. On se disait, bah voilà, il en a eu sur le plan personnel et sentimental. Il en a eu aussi sur le plan, j'allais dire, philosophique, intellectuel, sur le plan de la réflexion et des messages qu'il voulait faire passer. Ça a évolué chez lui ?
Au fond, non. Comment dire, oui et non. Ce qui frappe, si vous voulez, pour être simple, dans ce qu'il a vécu dans le XXe siècle de Camus, c'est qu'en fait, un peu comme Raymond Aron, il n'est tombé dans aucun piège de ce qu'on appelle les intellectuels. C'est pour ça que j'ai du mal à dire les intellectuels. Quand on relit sa vie, quand on, pas à pas, comme je le fais et que je raconte dans ce film, sa défense des Kabyles incroyable en 1939 dans un univers colonial incroyable, sa volonté de donner la citoyenneté au moment du Front populaire à un certain nombre de citoyens algériens.
Mais il était favorable à l'Algérie française foncièrement ?
Non, je pense que... Alors ce qui est complexe, et il le dit, il tire les sonnettes d'alarme contre l'égoïsme des Français au moment du Front populaire, il tire les sonnettes d'alarme au moment de Sétif en 1945, et au fond, son grand projet, sa grande conviction, c'est l'égalité entre Arabes, Kabyles et Européens, et au fond, c'est un projet... fédéraliste, c'est ce qui se passera en Afrique du Sud. C'est au fond en 1955, il pense que Mendès France, qui a fait la paix en Tunisie, arrivera à une solution, disons, indépendante de la France fédérale. Le rêve, c'est l'Afrique du Sud que 30 ans plus tard, Mandela réussira à réaliser. C'est sa grande utopie. Et face à ça, il va se fracasser au mur du terrorisme choisi par ses anciens copains musulmans, qui choisissent la terreur. Et finalement, à l'esprit borné des milieux coloniaux, de la 4ème République qui n'a rien compris et qui a choisi la guerre. Et c'est la tragédie, il meurt de ça, il meurt de l'Algérie.
Enfin, Georges-Marc Benamou, vous êtes intarissable sur Albert Camus parce que tout le monde ne le sait pas. Quelle est votre relation ? Pourquoi vous en êtes arrivé là et à ce documentaire ?
Moi, je pense qu'il y a une universalité d'Albert Camus. Alors, il se trouve que je suis né en Algérie, que le soleil, les terres rouges que j'ai quittées tout petit, je m'en souviens
à peine. Le paradis perdu.
Oui, mais aussi ce sens de la fraternité, de l'égalité. On ne faisait pas le paradis perdu du colonialisme, vous l'imaginez. Mais cette fraternité solaire, ce qu'il va défendre, ce qu'il va construire, et au fond, cet anti-totalitarisme, c'est quand même, je vous le redis, il ne s'est pas trompé. Parce que quand on relit les propos de Sartre qui a été son...
Allons-y, justement. Il y a eu ce harcèlement de Camus, des disciples de Sartre, jusqu'à lui donner des envies de fin de vie à Albert Camus.
Les campagnes de Sartre et de Beauvoir sont diaboliques.
Comment vous restituez dans le documentaire cette souffrance ?
Ils vont le lyncher parce qu'il a le tort, en 1952, de dire pour la première fois en France, quasiment, après David Rousset, etc., que Staline est un criminel. Il le dit au moment où la gauche d'alors est aveuglée par Staline. Et on va lui faire la peau. C'est-à-dire que le patron de Saint-Germain-des-Prés et de ses réseaux et des journaux et de l'influence et des influenceurs, comme on ne disait pas encore à l'époque, c'est Sartre et Beauvoir. Beauvoir qui, au passage, et on le raconte, dont il a refusé les avances, elle ne lui pardonnera jamais.
Exactement. Bon, juste un mot encore, Georges-Marc Benamou, avant de regarder ce documentaire. La philosophie de Camus, comment, en quoi trouve-t-elle un écho aujourd'hui, en 2020, en France, d'abord ?
L'humanité, cette idée qu'il dit empêcher le monde qu'il se défasse. Il était déjà un écologiste avant l'heure, il est un antitotalitaire, il a pas succombé au fascisme comme les autres, ni au communisme, il a vu le machinisme, il a vu venir le capitalisme fou. Mais par-delà, je crois qu'il y a un écho à la fraternité, à une fraternité universelle, qui fait qu'il est encore très lu et très sollicité. C'est un grand héros romantique.
Juste, il a été dit, vous savez, ce cliché du philosophe pour classe de terminale, la formule assez assassine des journalistes en 1970.
Et ça, c'est le snobisme parisien.
C'est ça, c'est le germano-pratin.
Il n'était pas agrégé, il était pied noir, il était fils de femme de ménage, et les intellectuels parisiens, qui étaient tous des bourgeois, lui ont fait la peau et ne lui ont pas pardonné. Ce film tente à réhabiliter cette belle vie sévie d'Albert Camus.
Et lui, il en était très fier, hein, de son histoire, de cette mère célibataire sourde qui travaillait effectivement comme femme de ménage. Merci beaucoup, Georges-Marc Benamou, d'être passé par là sur Europe 1 ce soir. Les vies d'Albert Camus, la voix de Philippe Torreton, c'est ce soir à 21h05 sur France 3. Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre pour le dernier quart d'heure de ce grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On change totalement d'univers. C'est la DER pour Jean-Paul Gaultier au Théâtre du Châtelet à Paris. Jean-Paul Gaultier, une icône aussi en termes de style, de mode, son héritage. Avec Diane Chanouda et Sylvia Jorive du magazine Elle. Et
vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la culture au rendez-vous tous les jours juste avant 20h. Dans un instant, on va parler de mode avec un dernier défilé historique. Mais avant cela, c'est l'heure de la playlist. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie Lévy ?
Bah justement, on rend hommage à Jean-Paul Gaultier. On écoute qui ? On écoute Madonna, sa muse, en quelque sorte. Allons-y, c'est Vogue. Ces deux-là, évidemment, ça fait un duo d'enfer. Vous vous souvenez peut-être, même certainement. En fait, c'est elle qui lui demande de dessiner les costumes de sa tournée à l'époque Blonde Ambition Tour. Il conçoit 6 tenues, dont le body corsé en satin, au fameux sein pointu, devenu chose rare d'ailleurs, hein, autant que synonyme de celui qui l'a conçu que de celle qui l'a porté. On est en 1990 et on va donc vous parler ce soir. Non pas de Madonna, mais de Jean-Paul Gaultier.
Et effectivement, et prochain titre à découvrir dans la playlist Europe 1, ce sera demain à la même heure.
Alors, cet événement mode, ce soir, j'en perds mes mots, avec vous, Diane Chenouda.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, bienvenue. C'est au Théâtre du Châtelet. Oui. On est presque un peu dans les coulisses,
ah
en
oui,
quelque sorte.
Oui, complètement. Sur son compte Instagram, on voit les coulisses, on voit les mannequins se préparer, se maquiller, etc. C'est très vite, c'est très bientôt, là, le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier.
Je vais te dire un scoop. Ça va être mon dernier défilé de couture. Donc, tu viens, tu ne peux pas manquer ça. Mais. Et je te rassure, Gaultier Paris continuera. La haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après. Tu sais, je te le dirai, tous les petits secrets. Mais ça va continuer. Bisous.
Voilà, il a annoncé donc son dernier défilé hein, en fin de semaine dernière. Ça a provoqué un coup de tonnerre hein, dans le monde de la mode. Voilà, donc ce défilé qui va avoir lieu dans
vous
à peu près trois quarts d'heure. J'y vais, bien sûr, j'y serai pour Europe 1. Et évidemment, ça sera quand même un feu d'artifice. Ça va durer à peu près une heure. Alors que généralement, les défilés haute couture, bien, c'est 10 minutes, 20 minutes, pas plus. Donc voilà, ça va être un immense show, évidemment, hein, c'est historique. Et on peut imaginer que ça va être complètement dingue, tant on connaît la folie crête.
Créatrice,
l'exubérance de Jean-Paul Gaultier.
Sylvia Jorive, vous êtes avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste mode à Elle. Vous vous préparez sans doute aussi à rejoindre le théâtre du Châtelet. Avec Jean-Paul Gaultier, c'est un coup d'éclat assuré pour cette DER, la DER des DER.
La DER des DER, mais comme vous venez de l'entendre...
En termes de défilé.
oui, mais je pense qu'on le reverra, parce que Jean-Paul Gaultier, c'est un puits d'idées, de d'imagination, et il aime tellement s'exprimer que je suis sûre qu'il réapparaîtra d'une autre façon.
Il va manquer Jean-Paul Gaultier, en tout cas sur les podiums, en quelque sorte, en termes de créativité, de pure mode, il va manquer.
Oui, il va énormément manquer parce que c'est un couturier du cœur. Voilà. Donc, il a accompagné toute l'époque contemporaine qu'on vit et il a invité absolument tout le monde sur son podium avec beaucoup de noblesse et beaucoup de respect.
Alors, Diane.
Ce dernier défilé là, ce soir, ce qu'on sait, c'est qu'il a lancé un casting sauvage. Écoutez.
Ça ne veut pas dire prendre tout le monde. Le casting sauvage ne veut pas dire prendre tout le monde. C'est prendre différents types de beauté. Mais il faut que ce soit des beautés. Quand même une beauté particulière. Voilà.
C'est un appel à ses fans.
C'est singulier, ça aussi, hein, comme
complètement,
façon de faire.
Mais bien sûr, hein, il fait défiler tout le monde, des petits, des ronds,
des
immenses.
Chauves.
Il faut absolument qu'il y ait une différence, un look, une personnalité, des gens complètement atypiques qu'il a cessé de faire défiler sur ses podiums, en effet.
Évidemment, Sylvia, la marque Jean-Paul Gaultier, c'est bien sûr cette collaboration avec des stars, avec Madonna, avec aussi d'autres personnalités
Conchita
françaises.
Wurst, hein,
oui, par exemple, Conchita Wurst. Il y a une forme de folie chez Jean-Paul Gaultier où tout est toujours très calculé, étudié.
En fait, c'est une forme de folie, bien sûr. C'est son impertinence, c'est ce qui fait son caractère. Mais c'est fait dans la vraie tradition de la couture. En fin de compte, c'est un couturier très, très classique. Ça pourrait être un enfant de Saint-Laurent, même si sa filiation première, c'était Pierre Cardin. Et c'est sans doute Pierre Cardin qui lui a appris qu'on pouvait faire absolument ce qu'on voulait dans la mode, que c'était très libre. Mais alors c'est peut-être aussi parce que c'est un autodidacte. Alors il y a aussi cette espèce de passion et de grand respect pour ce qu'est la mode. Et c'est un très très grand couturier. Ses vêtements sont absolument impeccables, les coupes sont parfaites. Il sait faire une robe de façon magistrale. C'est aussi un coloriste absolument extraordinaire. Il y a une palette chromatique dans ses vêtements qui est incroyable, des mélanges de tons absolument fous. Voilà. Et sa particularité, je pense que à l'issue de ce dernier défilé, il faudra quand même lui rendre justice, parce que c'est quelqu'un qui a été absolument pionnier en tout. La question du genre dont on parle aujourd'hui, il l'a traité il y a bien longtemps avec ces hommes qui portaient des jupes.
Ouais. Et puis toutes les personnes non grata aussi, tous les profils atypiques,
puis,
exactement.
Voilà, tous ces gens ordinaires, tous ces gens différents, alors ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la diversité ou l'inclusivité, c'est quelque chose qu'il a fait il y a bien, bien longtemps.
La différence, c'est puis...
le premier.
Merci beaucoup, Sylvia Gorif. On va vous laisser rejoindre le Théâtre du Châtelet. Journaliste mode à elle, merci de nous en avoir si bien parlé. Diane Chénouda.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a démarré très jeune, Gaultier, avec notamment l'ours de son enfance, son ours fétiche. Eh bien, il œuvrait déjà sur cet ours, écoutez.
Je lui ai fait tout subir, c'est-à-dire que je lui ai mis des implants, je lui ai mis de la corde pour lui faire les cheveux, je lui ai fait des maquillages avec le maquillage de ma grand-mère. Ça, il en a des couches et des couches et des couches. Puis je lui faisais aussi, je lui ai fait les synconiques.
Jean-Paul Gaultier, les synconiques bien avant ceux de Madonna, bien sûr. Ouais. Et il a fait la jupe pour homme, en effet, la robe en jean.
Le kit, la marinière.
Voilà, la marinière, bien sûr, la fameuse marinière en hommage à sa grand-mère, qu'il adorait et qu'il habillait tout en bleu. La marinière et le pull marin, très inspiré par la Bretagne, Jean-Paul Gaultier. Et voilà, donc ça va être quand même complètement fou ce défilé.
On peut imaginer qu'il y a des surprises, qu'il y a des stars qui vont venir justement le saluer.
On espère qu'il y aura quand même un Mandalire. On espère. Moi, j'espère Madonna.
Vous avez mis votre billet sur Madonna, vous ?
Oui. Parce qu'on nous promet une surprise et je me dis que...
Sa muse, elle devrait effectivement faire le déplacement.
La reine des muses,
vous
Madonna.
Vous nous dites.
Laetitia Casta, on espère aussi, parce que c'est vraiment lui qui l'a lancé sur les podiums. Catherine Deneuve, évidemment. Et puis, il faut dire un mot aussi de son avenir.
Parce que la question, c'est qu'on entend qu'il ne s'arrêtera pas là, qu'il a un projet, c'est quoi ?
Alors, ce qui se bruisse, c'est qu'en fait, il va peut-être tout simplement continuer dans le spectacle, c'est-à-dire, vous savez, sa comédie musicale, le Fashion Freak Show au Folies Bergère l'année dernière avait eu un grand succès. En tout cas, lui, ça lui a ouvert des voies, ça lui a donné des idées et peut-être qu'il poursuivrait dans cette voie, faire des comédies musicales.
Il aime les costumes d'opéra aussi.
Oui.
Il est dans cette...
Il a beaucoup d'ailleurs habillé les danseuses. Il a pour les ballets contemporains.
Il n'a pas dit son dernier mot.
C'est
Jean-Paul
sublime,
Gaultier. Il tire sa révérence, mais uniquement
à 67 ans.
À 67 ans. C'est jeune,
Pour lui, je crois que c'est jeune.
Évidemment.
Il en a sous le pied.
Sous le pied. Merci Diane Chénouda.
J'avais failli dire sous la robe, mais bon.
Oui, vous auriez pu. Filez, parce que sinon vous allez louper le début.
Absolument.
Et vous nous Instagrammez tout ça sur le compte d'Europe 1.
Absolument.
Isabelle Millet pour l'info dans un instant. D'abord, Émilie Mazoyer, qui est très Jean-Paul Gaultier, j'en suis sûre.
Ah, mais je l'adore. Et c'est vrai ce que disait Diane, son spectacle, en fait, c'est la mode et tout le reste. Moi, j'espère qu'il va continuer à faire ça. Ce serait génial. Alors, ce soir, c'est très bien aussi. C'est une tournée pour Mademoiselle K.
Je n'ai pas senti. Comme il faudra, l'argent et le succès, ça me vexe.
Ça me Beck, c'était sorti en 2006, à l'époque où les vinyles n'étaient pas revenus à la mode. Alors elle fête cette année la sortie 14 ans après cet album culte, et bah sa première sortie en vinyle. Et elle fête ça avec une grande tournée qui est déjà quasiment complète. Elle vient nous en parler ce soir dans Musique.
On vous écoute, Émilie Mazoyer. On est branchés, le son avec vous, le bon son et l'info qui revient demain. Dès 18h-20h, le grand journal du soir, votre grand journal du soir, pour écouter ensemble le monde changer, n'est-ce pas Anissa ? Très belle soirée à tous.
À demain 18h, c'était Nathalie Lévy.